Eh bien, nous y sommes à ce mercredi. Bonjour Martine Vallon.
Bonjour.
Et aujourd'hui, donc, on calculait à l'instant, ça fait déjà un an que vous animez des émissions Un moment pour la Terre. À l'époque, il n'y avait pas encore ce nom, mais ça fait un moment que nous parlons de nature.
Oui, tout à fait. Ça fait effectivement, à quelques jours près, cela fait un an donc, qu'on a commencé les émissions et qu'on a mis au point petit à petit un peu le format et le style des émissions. Donc, c'est vrai que c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas déterminé de thème précis. Je me disais que ce serait bien de faire une sorte de petit point de situation, pas vraiment un bilan, mais peut-être quelques questionnements sur, au bout d'un an, est-ce que... je dirais, l'attente est un peu de notre côté, de la parole des auditeurs, peut-être. Puisque la nature, l'environnement, c'est de l'interaction et que effectivement, par moment, on aimerait bien avoir le retour sur comment sont perçues ces émissions et quels thèmes peut-être on pourrait aborder qui intéressent les gens. Et voilà, donc. Aujourd'hui, c'est ça. Moi, ma question, ma demande serait, auditeur, dites-nous ce que vous en pensez. et puis peut-être aussi poser un nouveau point par rapport au fait que, nous venons d'élire un nouveau président de la République, vient de se mettre en place un nouveau gouvernement. Il va y avoir une assemblée aussi qui va être, pour partie du moins, nouvelle. Et donc peut-être se reposer la question de qu'est-ce que ça veut dire que parler d'écologie, dans quelle mesure le programme affiché prenait en compte ou prend en compte et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau gouvernement, avec bien sûr l'arrivée qui avait été de multiples fois envisagée, attendue, espérée de Nicolas Hulot, et donc les questions qu'on peut se poser autour de ça. Donc, en gros, je me suis dit aujourd'hui, peut-être, pour reposer les choses sur un plan de philosophie générale, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à sa position au monde que de parler d'environnement aujourd'hui et peut-être en Occident aussi. Donc, je reviendrai un peu sur cet élément-là. Pourquoi cet aspect-là ? Donc, parce que un mot à la mode aujourd'hui, c'est le pragmatisme. Et pragmatisme, ça peut entraîner des positions philosophiques qui en sont ou qui n'en sont pas, effectivement. Mais par exemple, on l'oppose facilement à utopiste. Mmh. Et donc, de utopiste à écologiste, il y a parfois aussi très peu de distance et on nous qualifie régulièrement d'utopiste lorsque on imagine un monde peut-être différent de celui dans lequel nous vivons. Donc, il y avait ce point-là que je voulais aborder avec le déroulement aussi sur... où sont les responsabilités ? Qui est responsable ? Et donc, dans un troisième point, nos politiques, bien sûr, sont responsables. Effectivement, nous les élisons, ils mettent en place les moyens, les outils. Mais est-ce qu'à partir de l'instant où on a voté, on peut rentrer chez soi et se dire « Bon, bah, ça y est, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, aux autres d'agir. » Et donc, la responsabilité, comment l'entretenir, la partager et comment continuer à être vigilant. Donc, l'idée est un peu ça aujourd'hui. Alors, sur le point du positionnement, je dirais, l'écologie et aujourd'hui, est-ce que le mot de pragmatisme peut nous rendre optimistes? Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai une légère méfiance vis-à-vis de la philosophie des pragmatiques. En gros, c'est mettre en avant l'action, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on dit pragmatique, c'est celui qui dit moi le sens, enfin l'action porte en elle-même son sens, c'est-à-dire j'agis dans la mesure où je peux agir dans les limites de mes possibilités ou de ce qui m'est offert, je m'adapte et je fais en fonction d'eux. Ça c'est quelque chose qui peut poser problème. Parce que est-ce que l'action a elle, en elle-même son propre sens? Est-ce qu'il suffit d'agir? Ou est-ce que l'action ne doit pas être sous-tendue par une vision, par un projet, par quelque chose? Aller vers quoi? Donc c'est là où je dis on l'oppose à l'utopie, parce qu'effectivement, l'utopie, on pose le rêve et puis on essaye d'aller vers le rêve avec toutes les difficultés que ça peut entraîner. Alors c'est vrai que le pragmatisme, c'est la capacité de s'adapter aux contraintes de la réalité. Mais d'emblée, ça veut dire aussi se poser des limites. C'est-à-dire que est-ce qu'on a encore le droit de rêver face à la réalité? Est-ce que quand on dit l'être humain, ça n'est que l'être humain, on ne peut pas lui demander trop. Donc effectivement, demandons-lui peu. Et comment l'être humain pourra-t-il évoluer si on lui demande peu et de jour en jour, peut-être, est-ce qu'on ne va pas diminuer encore sa capacité de s'éduquer, de changer, d'évoluer. Donc c'est quelque chose où je me dis, afficher le pragmatisme, c'est peut-être pas forcément très, très, très porteur d'évolution. Mmh. Il y a aussi là une opposition avec la recherche de la connaissance. L'intelligence humaine serait là la capacité d'agir et non pas la capacité de connaître ou de comprendre et non pas une évolution dans ce sens-là. Donc c'est un peu un questionnement par rapport à ce qui se pose aujourd'hui et à ce qu'on met en avant comme étant le positif du jour. Et j'ai envie de relier ça un petit peu sur une question philosophique, je dirais, à la conception occidentale de la place de l'homme sur Terre, de la place de l'homme au monde. Et donc là, je repars de ce qui nous fonde, je dirais, la Bible, puisqu'en Occident, on est quand même bien marqué, issu, par tous ces textes bibliques. Et donc dans la Genèse, chapitre 1, verset 28, il est dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc effectivement, ça nous donne bien la conception profonde qu'on a aujourd'hui en Occident du rapport entre l'homme et la nature. Contrairement, j'allais dire, à certaines philosophies d'Orient où il y a cette idée que l'être humain fait partie d'un ensemble et qu'il est intégré dans la totalité du monde et qu'il est un élément du monde. On a, nous, la vision de la domination de l'humain sur tout être vivant, sur tout être sur terre, dans l'eau, dans le ciel, etc. Et donc, effectivement, cela, ça leur entraîne une forme de mise en place de l'action sur la nature. C'est-à-dire qu'on doit faire plier la nature à nos besoins, à nos désirs, à notre volonté. Et donc, à partir de là, je dirais, ça va jusqu'à une agressivité qui peut être très forte et qui, à certains moments, à certains endroits, devient très forte envers la nature. Et ce qui découle de ça, ou ce qui est important aussi dans ce domaine-là, c'est que nous avons la capacité de nommer. C'est-à-dire que l'homme est doué de paroles et est doué de sens et d'intelligence et a ce pouvoir de nommer les choses, d'étiqueter, de nommer l'autre. Et qu'est-ce que ça signifie par rapport à sa relation à la nature? Eh bien, par exemple, on milite à France Nature Environnement pour la biodiversité. Mmh. Et aujourd'hui, la biodiversité est quelque chose qui, effectivement, devient un concept qui est mis sur la place publique et qui est pris en compte et sur lequel il y a du travail de fait. La biodiversité, c'est remettre en question cette position supérieure et centrale de l'homme sur la nature. La biodiversité, ça veut dire chaque espèce a droit de cité, chaque espèce a sa place, nous ne sommes qu'une partie d'un grand tout. Donc c'est en termes de paradigme, c'est véritablement un changement de regard très important et donc extrêmement difficile à faire mettre en œuvre. D'autant plus que dans cette capacité de nommer, c'est l'homme qui décide, par exemple, que tel animal va être un nuisible ou que tel animal va être un prédateur. Mmh. D'accord ? Et donc là, à partir de ce moment-là, effectivement, on a déterminé que cette espèce, cet animal ou cette catégorie devait être réduite, restreinte, voire même éradiquée. Mmh. Donc, voilà, le premier point posé, je dirais, par rapport effectivement à ce que on peut ensuite mettre en place ou attendre. Alors, je reprendrai peut-être.
On fait une pause musicale.
Oui, j'ai prévu une ou deux petits morceaux de musique pour la respiration.
Voilà. Alors, on commence par Wind in the Steppe et c'est par les violons barbares. On écoute tout de suite.
Oh.
Et on reprend cette émission. Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral dans l'émission mensuelle Un moment pour la Terre avec Martine Vallon de France Nature Environnement.
Donc oui, je posais donc cette idée de la place de l'homme et de la façon dont il se positionne au monde. Et ce plan où on est en position de pouvoir et où on est censé assujettir et dominer la Terre entraîne bien entendu une conception alors à la fois donc on nomme les espèces en fonction de l'intérêt qu'on y trouve, donc je disais les prédateurs, les nuisibles, mais on a aussi la ressource. C'est-à-dire qu'en fait, on considère les animaux comme étant une ressource alimentaire, point. Et on voit aujourd'hui, lorsqu'on va jusqu'au bout de ce cheminement-là, les questions que ça peut poser. Par exemple, donc les actions qui ont été menées par l'association L52. Sur la cause animale et sur la maltraitance envers les animaux et comment voilà. Donc il y a ce côté-là de ne considérer en fait que ce qui nous sert, c'est-à-dire que en fait après on pose la question, eh bien finalement telle espèce, à quoi ça sert? Si ça sert à rien, on peut supprimer.
C'est vrai, c'est ce que je me demande sur les mouches, par exemple.
Voilà. Eh bien, si, les mouches, ça peut être très utile comme nettoyeur. Mm-hmm. Effectivement. Alors, c'est désagréable, mais on peut dire aussi, souvent, c'est les moustiques hein, mm-hmm. aussi. Et si on va dans ce sens-là, en effet, ça peut aller jusqu'à... Le désir d'éradiquer, je veux dire, on a certaines espèces, donc bon, on travaillait hier par exemple sur la question du loup, qui est un point chaud pour notre région, et bien voilà, donc ce qui nous est dit régulièrement, c'est le loup, à quoi ça sert? Bon, alors quand c'est... du coup, à quoi ça sert? Moi, ça ne me sert à rien. Donc, s'il est ailleurs et qu'il ne me dérange pas, tout va bien. Mais s'il arrive chez moi, j'en veux plus. Le requin, à quoi ça sert? Et donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi de forts mouvements parce que, évidemment, il peut y avoir des accidents. Mais... Et on peut comme ça aller très très loin. Je veux dire... Sur les espèces locales, bon, on a le castor qui commence à être problématique et voilà. On a les cormorans qui mangent les poissons et donc à quoi ça sert, voilà. Voilà, on peut
pourrait éradiquer
les
beaucoup de espèces animales. Oui.
On pourrait comme ça. Alors. Si je fais un peu dans la provocation, je vais dire, échangeons nos loups contre les tigres indiens, bon, ou bien contre les requins. Ce qu'on veut bien accepter loin de nous, ou ceux où l'on se dit, tel animal doit exister. Dès l'instant où il nous occasionne une gêne, une difficulté ou un dégât, ça n'est plus supportable. Donc ça, je crois qu'il y a là quelque chose véritablement qui doit être questionné, qui doit être envisagé et qui doit être envisagé non pas en termes de réaction épidermique immédiate, mais avec un essai de recul intellectuel, parce que justement l'être humain il a quand même aussi cet avantage-là, qu'il a la capacité de réfléchir, de se questionner et peut-être d'évoluer et d'envisager les choses un peu différemment. Donc, ça m'amène à parler de cette question de responsabilité par rapport à ce qui est fait ou à ce qui est mis en place, etc. Alors, je disais, aujourd'hui, bon, moi j'ai fait mon devoir de citoyen, j'ai voté et je rentre chez moi et tout va bien. Et ensuite, eh bien, il y a des gens qui vont s'occuper d'eux. Sauf que, à certains moments, ces gens-là, si on ne vient pas leur rappeler qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été pris comme engagement, pour quelles raisons ils les suivraient, enfin, voilà. Alors on peut se dire, ils sont convaincus, mais on sait très bien aujourd'hui qu'il y a la conviction et puis il y a la communication, l'affichage et ce qui est souhaitable et donc ce qu'on va pouvoir dire pour être élu, bon, et puis on verra après ce qu'on en fait. Donc notre responsabilité, déjà, elle ne s'arrête pas au vote, mais elle ne s'arrête pas non plus à notre seule petite action personnelle, individuelle. Je crois que il y a là, aujourd'hui aussi, une désaffection pour le collectif, mais c'est peut-être un manque de connaissance de ce que peut être le collectif en termes d'organisation et de système.
Ceci dit, si chacun s'occupe à sa façon d'économiser l'eau chez lui, de pas traiter ses cultures dans son petit jardin et d'acheter local, enfin déjà, bien, voilà, déjà c'est un bon
déjà c'est un bon cheminement.
Ouais.
Mais je dirais c'est un bon cheminement surtout. Parce que ça signifie une prise de conscience véritable. Surtout parce que ça signifie une prise de responsabilité et un positionnement personnel, individuel, qui est relié à sa conception du monde et à ses idées profondes. C'est-à-dire que, effectivement, je pense, oui, donc je suis, mais donc je mets en accord mes actions avec mes pensées. À titre individuel. Mais on est quand même dans une société et on est un collectif. Mmh. Et donc, ce collectif, ça n'est pas que un assemblage d'individus les uns à côté des autres. Il y a tout un système qui fait que 1 + 1 + 1, ça ne fait pas 3, mais ça fait beaucoup plus que ça quand il s'agit d'organismes vivants et d'interactions. Et on le voit bien, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective, c'est véritablement quelque chose qui naît de la collaboration d'individus et de petits systèmes qui ont des réalités différentes. Et quand on met tout ça ensemble, tout d'un coup, ce qu'il en sort est beaucoup plus que l'addition. Mmh. Et donc, de la même façon, ce qu'il en sort en plus ou ce qu'il en sort en moins, c'est-à-dire que les dégâts peuvent être aussi multipliés comme les bienfaits. Donc, à partir de là, il est nécessaire aussi d'envisager l'action en termes d'action collective. C'est-à-dire que, par exemple, si je le prends au niveau de notre fédération, de notre association, en termes d'association, pour qu'une petite association locale, par exemple, fonctionne, je dirais, il suffit de 2 ou 3 personnes dynamiques, motivées, et ça met en place quelque chose qui, véritablement, a une incidence. Mais s'il y a 50 personnes, même s'il n'y en a toujours que 2 ou 3 qui sont dans l'action immédiate, il bénéficie quand même de cet apport collectif. C'est-à-dire que, alors, en termes de capacité à être entendu, forcément, moi je le vois très bien, dès l'instant où je dis je représente une association, on me demande combien avez-vous de membres. Donc ça veut dire que le poids de ma parole, il n'est pas lié uniquement à ce que je peux faire, à ma capacité d'action personnelle ou à mon petit conseil d'administration, mais il est lié aussi à tout ce qu'il y a derrière comme personnes qui disent « moi, je suis sensible à ça aussi ». Donc là, ensuite, même chose lorsque je dis nous sommes une fédération, c'est bien de combien d'associations elle est composée, c'est-à-dire quelle est sa capacité d'entraîner une dynamique et de rassembler sur un petit projet ou sur un contrat ou sur un champ d'action particulier, d'assembler suffisamment de personnes pour que ça ait un poids véritable et un sens véritable. Parce que le poids statistique, il est aussi lié au sens qu'on veut donner à l'action et au sérieux de l'action qu'on entreprend. Donc en fait, aujourd'hui, notre action, elle est individuelle, personnelle, elle est collective au moment du vote, si elle n'est pas une totale délégation. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant, effectivement, où il y a une totale délégation de pouvoir et où après, on ne veut plus s'en occuper, c'est-à-dire, bon, je donne ma voix et puis lui, il va agir. Mais si on ne surveille pas, si on n'est pas là et si on ne... si on n'est pas, vigilant sur le contrat qui a été passé. Parce qu'en fin de compte, ce qui se met en place, c'est un contrat. Tu me promets ça, moi je te donne ça et maintenant je veux voir ce que tu vas faire. Et donc aujourd'hui, le contrat est un peu flou. Le contrat est un peu flou. Pourquoi ? Je pense parce que en termes d'élections, à l'heure actuelle, c'est peut-être par défaut à certains moments. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté, notamment au deuxième tour, par exemple, au présidentiel, eh bien, juste pour une négation, pour un barrage, pour etc. Donc sur un problème, un programme. Donc pas sur. Donc là, à ce moment-là. Quelle est la signification du contrat et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Donc, voilà. Alors, on arrête deux secondes et puis je reprends peut-être.
On va écouter Circle of a Life de Léo Roras. Oui. On écoute ça et on se retrouve juste après.
Yeah.
Alors, c'est bientôt l'heure de conclure, Martine Vallon.
Oui, je disais, voilà, aujourd'hui, on a un contrat moral avec un nouveau gouvernement qui n'est pas totalement défini tel qu'on aurait pu le souhaiter. Par exemple, sur le programme qui était affiché par le président Macron, WWF a fait un peu une analyse des différents points dans tous les domaines concernés, transport, agriculture, économie, etc., énergie. Et bon, il n'y a pas de découvertes et de propositions très différentes de ce qui était dans la période précédente. Globalement, on ne va pas plus loin.
Ça ne va pas être révolutionnaire.
Il y a un positionnement, par exemple, sur l'abandon des OGM plein champ, donc ça qui paraît net. Ce qui est aujourd'hui le plus évident dans les choix posés, c'est effectivement l'arrivée de Nicolas Hulot. Donc Nicolas Hulot, dont on connaît l'investissement depuis de longues années.
Pour la sauvegarde de la planète.
Sa véritable bonne foi, mmh. Sa motivation, son dynamisme, etc. On peut espérer. Mais il n'est pas tout seul et ouais. Il est dans un environnement. Il ne sera qu'un élément d'un gouvernement. Et donc, je pense que là, nous avons la responsabilité, en termes de citoyens, de lui donner la capacité d'agir. C'est-à-dire que c'est nous aussi qui pouvons aujourd'hui lui donner le poids de nos attentes, le poids de notre vision, et l'aider à s'appuyer justement sur cette force-là pour faire passer un certain nombre de choses. Parce que si nous ne sommes pas suffisamment attentifs, présents et exigeants, effectivement, il ne pourra pas faire grand-chose. Pour avoir, par exemple, travaillé pour le ministère des Droits des Femmes, on nous affichait de grands objectifs où il y avait des grands axes qui étaient donnés. Mais comme socialement, il n'y avait pas une exigence forte et il n'y avait pas une attente forte de la société et que les préjugés et les comportements étaient encore là, eh bien, effectivement, en termes du budget, c'était un tout petit budget. Et donc, du coup, en termes de moyens, de tout petits moyens, et donc une parole qui n'était pas entendue. Et donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, si effectivement on souhaite que l'écologie prenne une grande place et une vraie place et qu'on aille vers un meilleur art de vivre en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments qui sont importants pour tous, effectivement, il faudra le manifester et il faudra apporter tout ce poids citoyen à Nicolas Hulot. Sinon, il aura effectivement, il sera seul face au lobby des agro-industriels, au lobby des Monsanto et compagnie, des laboratoires pharmaceutiques, des transports, etc., etc.
Donc, il appartient à tous de se mobiliser.
Complètement.
Voilà. On va venir aux événements à venir.
Oui.
Votre agenda pour France Nature Environnement.
Alors voilà, on a quelques petits événements prévus là. Nous participerons normalement demain, 1er juin, à l'inauguration de l'espace naturel sensible des pénitents, au Mai. C'est demain après-midi à 15h30. Donc ça, c'est effectivement dans les espaces naturels sensibles, c'est la prise en compte de certains lieux patrimoniaux de notre département et de leur aménagement et de leur amélioration. Et puis, surtout, ce week-end, nous avons un programme dans les journées Rivières en fête. Et donc, nous serons au Brusquet dimanche de 14 à 16 heures pour une visite d'une exploitation en agriculture biologique. Cette visite sera faite en partenariat avec Agribio 04 et donc le rendez-vous sera à la salle polyvalente du Brusquet.
Et pour donc, une exploitation de
C'est une exploitation verger, céréales et maraîchage, c'est polyculture. Et donc, et ça s'intègre dans un programme de tout le week-end qui est mené sur la Bléone, ses affluents, et qui est mené avec le CPIE des Alpes de Haute-Provence, qui est mené dans le cadre des actions que nous faisons avec le SMAB, le syndicat d'aménagement de la Bléone, donc, et l'association aussi. Donc là, participeront, alors il y a samedi et dimanche, ça commence même jeudi pour l'accueil des classes sur le projet d'éducation à l'environnement. Donc tout le programme des festivités sera sur notre site et c'est donc tout ce week-end sur l'eau, sur la rivière, sur la Bléone et sur effectivement cet aspect qualité de l'eau pour nous et possibilité pour l'agriculture de préserver aussi la qualité de l'eau. Voilà, et juste peut-être aussi rappeler que l'université d'été de FNE se passe cette année dans l'Essonne et ce sera du 29 juin au 1er juillet. Donc là, même chose, il est possible de commencer à s'inscrire. Le thème cette année sera justice sociale et transition écologique. Et voilà, et nous aurons, mais ça on en reparlera plus tard, début août, donc notre événement en relation avec le musée Gassendi sur la question des sols et de la préservation des sols. Et à ce propos, je rappelle donc qu'il y a à l'heure actuelle une pétition que nous faisons signer et donc et que chacun peut signer en ligne, qui est une pétition pour la préservation du sol. On lance cette pétition pour inciter l'Europe à prendre un texte de loi pour réglementer la protection du sol.
Et, donc une pétition qu'on trouve sur votre...
qu'on trouve sur notre site.
FN04.
Voilà, oui. Et qu'on trouve donc aussi, c'est People for Soil, donc People et 4, donc for Soil, qui est donc le collectif qui gère cette pétition pour, vous savez que c'est dans le cadre des demandes à l'Europe de mettre en place un texte. Il nous faut 1 million de signatures sur l'ensemble de 7 pays européens pour pouvoir demander une législation.
Merci Martine Vallon, on va mettre ceci même en ligne sur notre Facebook. Il est déjà le moment de se quitter. Très bonne journée à tous. Thank you.